Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Des histoires d'espionnage, d'agents secrets, on en compte beaucoup dans la filmographie d'Alfred Hitchcock, dans sa période britannique comme dans sa période américaine. De l'homme qui en savait trop aux premières versions à une femme disparaît, en passant par les 39 marches. De correspondant 17 à l'écho, en passant par les enchaînés, la mort aux trousses, le rideau déchiré, sans oublier la version américaine de l'homme qui en savait trop. En 1981, le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe proposait une analyse d'un film d'Hitchcock de 1936, Secret Agent, d'après Somerset Maugham, 4 de l'espionnage sous son titre français. À ne pas confondre avec Agent secret, d'après Joseph Conrad, dont le titre original était Sabotage. Le cinéma des cinéastes, Secret Agent ou 4 de l'espionnage, une émission diffusée pour la première fois le 25 janvier 1981.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Selon notre habitude, nous allons et nous venons. Cette émission sur l'agent secret d'Alfred Hitchcock, qui est un film de 1936, se situe entre l'émission que nous avons consacrée à Histoire d'Adrien de Jean-Pierre Denis et à C'est la vie de Paul Vecchiali, dont nous vous parlerons la semaine prochaine. Nous allons et nous venons donc entre le passé et le présent, mais nous allons et nous venons aussi entre des émissions tournées vers l'extérieur, c'est-à-dire tournées vers les cinéastes qui viennent parler de leurs films, des voix nouvelles comme celle de Jean-Pierre Denis ou bien une voix que vous connaissez qui est celle de Paul Vecchiali que vous en réentendrez la semaine prochaine, et des émissions plus intimes, plus intérieures, puisque nous enregistrons dans mon appartement et que autour de ces micros se trouvent Philippe Leguet, notre invité d'aujourd'hui, Caroline Champetier et Pierre Donadieu, comme d'habitude. Et alors, l'agent secret 1936. C'est un film dont j'avais perdu personnellement tout souvenir. J'avais dû le voir dans un des nombreux hommages à Hitchcock de la Cinémathèque française. Et en le voyant l'autre jour, j'ai eu brusquement un choc, parce que c'est dans ce film que je trouve plus que dans aucun autre d'Hitchcock. Et c'est là d'ailleurs que je vais lancer une idée en vous demandant soit de la rattraper, soit de me demander de préciser. Et qui est que ce qui justifie le cinéma d'Hitchcock, les sujets du cinéma d'Hitchcock, le meurtre, c'est qu'il a envisagé lui-même toutes les possibilités d'attitude et de distance vis-à-vis du meurtre. Et qui sont celles, finalement, que nous avons tous dans la vie. Un meurtre de loin, c'est très palpitant, c'est très excitant. C'est de la fiction. Un meurtre de près, c'est insoutenable, au point qu'on s'y refuse comme spectateur, et bien entendu, qu'on s'y refuse absolument comme auteur de ce meurtre, surtout s'il s'agit, comme dans l'agent secret, d'un innocent. Et la force de ce film, c'est de nous montrer à à tout moment cette distance, c'est-à-dire que d'habitude le spectateur du film s'identifie aux personnages, alors que là ce sont les personnages qui s'identifient à toutes les attitudes de spectateurs possibles. C'est-à-dire qu'on voit Madeleine Carole, par exemple, c'est très net dans la première partie du film, le personnage joué par Madeleine Carole, qui est une jeune femme blonde, celle d'ailleurs qu'on a... tout à fait hitchcockienne, et qui, par un subterfuge d'espionnage, et se trouve être mariée par fiction, par affabulation, avec l'agent secret chargé de commettre le meurtre. Et elle est très très heureuse, elle est très très contente, elle est très gaie, elle trouve ça très excitant. Elle va entrer dans sa vie même, dans une aventure de fiction. Or, il se trouve qu'à un autre moment du film, c'est elle qui rejettera d'une manière très violente l'horreur qu'on lui fait commettre.
Oui, moi je peux d'ailleurs...
Caroline.
Le premier plan de ce point de vue-là est extrêmement indicatif de tout ce que vous dites. C'est à mon sens un des plans les plus rigoureux du film. Parce que sinon, c'est par séquence que je trouve le montage extrêmement rigoureux. Le premier plan, donc, c'est un zoom arrière partant d'un cercueil, c'est-à-dire que la mort est déjà là, avec des hommes en noir, principalement des hommes, qui sont en train de faire leur dernière salutation aux morts, enfin aux morts probables qu'il y a dans ce cercueil. Et puis, ce zoom arrière se décale un petit peu vers la gauche. On voit donc le mouvement de foule, on le suit, puisque les gens vont tous dans le même sens, et puis se transforme assez insensiblement en un travelling qui va de la gauche vers la droite, suivant toujours le mouvement des gens, et le mouvement de quelqu'un en particulier qui va demander un renseignement à un majordome manchot. Et donc ce travelling s'arrête devant une porte éclairée assez violemment, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière derrière cette porte. On peut penser qu'il s'agit de... D'ailleurs, on a envie de sortir de cette pièce. Donc on peut penser qu'il s'agit de la vie, de quelque chose vers où on veut aller, quoi. Et le travelling s'arrête là, c'est-à-dire que nous, on n'ira pas plus loin, le spectateur n'ira pas plus loin. C'est-à-dire que, bon, je crois que le mouvement décrit bien... Le regard un peu contorsionné, mais quand même assez clair d'Hitchcock par rapport à la mort, quoi, à une situation qu'il faut regarder mais contourner.
Regarder, enfin, il ne s'agit pas seulement de la mort, parce que dans son cas, il s'agit du meurtre. Hein. Parce que si je prends une autre image, alors si je prends d'autres, d'ailleurs vous avez dit zoom.
Si on suit cette séquence qui est quand même très très étonnante, il y a une chose que je n'ai pas compris. Bon, il y a d'abord ce personnage manchot, j'aimerais juste signifier que je pense que ce n'est pas innocent qu'il soit manchot. Qui va inscrire quelque chose qui va plus tard prendre une force, d'ailleurs, quand il va s'attaquer au cercueil, il va inscrire la maladresse. Et tout le film fonctionne sur la maladresse de ces soi-disant professionnels de l'espionnage, qui sont en fait des très très mauvais espions. Et parce que le spectateur, finalement, arrive toujours à comprendre ce qui se passe bien avant eux. Je reviendrai à quel moment du film, d'ailleurs, ils comprennent avant. Mais ce cercueil, une fois que tous les gens sont sortis, ce type se jette dessus et puis le met par terre et essaye de le transporter très très maladroitement. Donc je crois que Hitchcock réinscrit là la maladresse, qui sera le sujet, enfin en tout cas ce que partageront les trois agents secrets. Mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça.
On comprend d'abord que le cercueil est vide alors qu'on croyait qu'il y avait quelqu'un dedans.
Oui.
Enfin, il y a une mission à l'origine. Cet agent secret doit assassiner quelqu'un dont il ne connaît pas l'identité. Lui-même, on lui donne une identité qui n'est pas la sienne. Et on profite de sa mort officielle pour lui donner cette identité. Il me semble qu'il y a un peu le même rapport de l'identité au tableau qu'il y avait dans Vertigo. En effet, dans Vertigo, James Stewart est amoureux d'une femme qui n'existe que par son portrait. La femme se définit par rapport au portrait, c'est-à-dire qu'elle va adopter la même coiffure, les mêmes vêtements, les mêmes bijoux, etc. Ici, on a l'image d'un homme, ou plutôt l'idée d'un homme qui est mort, qu'on croit allongé dans un cercueil, et ce cercueil est vide, et on passe à son image picturale, qui au fond l'inscrit presque dans la mort, qui est comme si le tableau était de l'ordre des morts, et on peut d'ailleurs à cet égard ouvrir une parenthèse sur tous les tableaux qui ornent l'œuvre d'Hitchcock. Je pense par exemple au portrait de Rebecca dans Rebecca.
Oui, mais ou... c'est parce qu'il s'agit donc de la représentation. Je crois qu'il faut y aller plus clairement. Tout, voilà. Il s'agit vraiment de la représentation. Et
Que cette représentation est toujours liée à quelqu'un qui est mort. Par exemple, le portrait du père dans Soupçon, le portrait du mari Pardine dans Le procès Pardine.
Il n'est pas mort puisqu'il vit. Justement.
Ah voilà, oui.
C'est que je crois que ce que dont Hitchcock parle, c'est le paradoxe de la représentation.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais oui, mais le paradoxe de la représentation, rappelez-vous la dernière émission qu'on a éprouvé le besoin de faire ensemble sur un film, il se trouve que c'était Le Boulevard du Crépuscule qui était raconté à la première personne en voix off par un personnage censé être mort. Dire que on pourrait donner d'autres exemples. Enfin, le cinéma américain n'a jamais été autant romanesque, au sens véritable, populaire, disons, du mot romanesque, que dans ces années-là, ces années 40, le début des années 40, au moment de Laura, qui est aussi racontée par un mort. Bon, là, on est en 36, c'est-à-dire une période un peu différente déjà, et il est bien possible qu'il se passe quelque chose qui a à voir avec l'essence même de la fiction. Moi, je crois que on vit, puis on raconte ce qu'on vit, et que donc on survit.
On peut réinverser.
À partir du moment où on meurt, on ne peut plus raconter. Et on ne peut plus raconter ce qui est le plus intéressant à raconter, c'est-à-dire les quelques instants, on ne peut pas raconter sa mort, puisqu'on est mort. Et que c'est ça qui définit la mort. Ça, c'est d'ailleurs. Je crois que ça n'appartient pas en propre à Hitchcock. Je crois que ça appartient à tous les conteurs. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'ils soient d'une certaine façon morts et de démentir cette mort par un coup de théâtre pour créer le sésame ouvre-toi de la fiction. Je crois que ça n'appartient pas en propre à Hitchcock. Je crois qu'à partir du moment où on vit dans la narration comme il a toujours vécu, dans l'envie de raconter et de surprendre, donc la plus grande surprise, c'est de faire revivre les morts.
La fiction chez Hitchcock, c'est une fiction qui va toujours, non pas de la naissance à la mort, mais de la mort à la naissance, justement. Et tous les films d'Hitchcock racontent l'histoire d'une naissance. C'est généralement l'histoire, comme dans ce film-là, de la naissance d'un couple. Ça peut être l'histoire d'une fausse renaissance à la vie, comme dans Marnie. Mais dans Notorious, c'est aussi un couple. Comment naît un couple? Et là, c'est précisément ça. Donc il faut partir du néant pratiquement pour qu'il y ait une naissance. C'est à partir de rien. Donc là vraiment très très clairement, Hitchcock fait partir son personnage d'au-delà des morts. Effectivement, c'est comme
oui,
ça que ça commence.
Donc j'ai raison de ce travelling qui va vers la lumière. J'ai raison de signifier qu'il va vraiment vers la lumière.
Absolument.
Et qui s'arrête dans cette pièce.
Absolument. Bon, absolument.
Et qu'à partir de là, la fiction commence.
Et je crois pour continuer sur cette première séquence, Caroline, tu parlais de maladresse. Je crois que s'il y a souvent des choses comme ça qui relèvent de l'ordre de la maladresse dans les films d'Hitchcock, c'est parce que la maladresse, c'est le moment le plus intense de confrontation avec la matière. C'est parce que la maladresse, c'est renverser un verre, c'est faire renverser le chandelier, par exemple, quand le manchot essaie de porter le cadavre, le cercueil, pardon. C'est là que vraiment la matière est la plus présente, c'est qu'on se confronte à elle, qu'on se cogne avec elle et qu'on n'y arrive pas. Et c'est chez Hitchcock qu'on a le plus de matière.
Ce que j'aime bien, c'est quand on rapproche ça au film lui-même, et je crois que dans le film, il s'agit vraiment de maladresse, parce que ces trois agents secrets, on parlera plus tard du triangle, parce qu'encore une fois, là, on retrouve dans ce film, et c'est même assez émouvant, incroyablement les thèmes qui sont les thèmes chers à Hitchcock, c'est-à-dire le couple, donc, la femme vide. Bon, je parlerai plus tard, la femme hitchcockienne, la blonde, elle parlera de moins en moins d'ailleurs, la femme, je pense, chez Hitchcock. Celle-ci, on a presque le sentiment qu'elle parle trop. Je crois que c'est parce que c'est une des premières femmes d'Hitchcock, comme il veut les représenter. Puis le triangle, comme on le verra dans Les Amants du Capricorne ou Young and Innocent, et puis le secret.
Mais non, je crois que vous définissez assez bien les thèmes hitchcockiens qui sont en germe dans ce film, mais beaucoup plus qu'en germe. Je les trouve incroyablement vivants et jeunes. Et que de ce fait, je n'ai absolument pas envie de réduire l'œuvre anglaise d'Hitchcock, même maladroite, et je crois même délibérément maladroite dans ce film.
Mais je dis qu'elle est délibérément maladroite.
Je crois que c'est Hitchcock lui-même qui est délibérément maladroit, puisqu'il raconte un ratage. Il raconte des actes d'abord manqués par maladresse et puis ensuite délibérément manqués, puisque à un moment précis, le personnage refusera d'être un héros. refusera d'exécuter un ennemi alors que nous sommes en plein dans la guerre de 14 et que exécuter un ennemi en plein dans la guerre de 14, après tout, ça n'est pas si grave. Mais Hitchcock éprouve le besoin de nous montrer ce personnage entre deux films, ou alors là, le héros ira jusqu'au bout et il n'hésitera pas à monter les escaliers, à aller jusqu'au bout de sa sauvegarde personnelle et de sa de la mission dont il est investi. Donc là, il y a...
Les 39 marches, tu n'as pas dit le titre.
Oui, mais enfin, bon, mais ceci dit, moi je crois que c'est une œuvre intime, Agent Secret. Hein, si on devait casser les films d'Hitchcock entre les films tournés vers le public...
Il met ses thèmes en place, absolument, c'est intime. Il met ses thèmes en place et il voit, et on les retrouvera, on les retrouvera remarquablement dans d'autres films, hein, parce que je pense qu'il reste quand même moi, il me fait penser à Bout de souffle, ce film. Il me fait penser à Bout de souffle comme un premier film où il y a vraiment les germes d'une œuvre qui sera...
Enfin, un des premiers, parce qu'il a déjà, on est en 36, il a déjà... Non, c'est-à-dire que la force d'Hitchcock, on s'en rend bien compte en consultant, par exemple, le numéro de Cinématographe sur Hitchcock m'est tombé sous les yeux l'autre jour, et sans lire les articles, et en les lisant, et en regardant les photos, à quel point... on n'y peut rien. Dire que ce qui prouve son génie, c'est absolument pas les arguments que nous allons pendant une heure développer ici. Ce qui prouve son génie, c'est notre intérêt, notre propre curiosité, notre envie d'y entrer, notre envie de trouver des issues, notre envie d'y trouver des brèches. Bon, et qui n'est pas seulement la nôtre. Autrement, ce serait quatre maniaques en train de parler d'un inconnu. Qui les intéressent. Il s'agit non pas d'un cinéaste sur lequel quatre maniaques brusquement décideraient d'exercer leur acuité critique. Il s'agit d'un des cinéastes les plus connus. Enfin, Hitchcock avec Chaplin est celui qui a suscité le plus d'intérêt. C'est celui dont les films sont ont été le plus diffusés à la télévision, au cinéma et ailleurs. Et en même temps, c'est cyclique. Et en même temps, on les revoit et ils vont revenir, etc. Cinéaste qui lui-même s'est trouvé... comme tous les cinéastes, finalement, et comme tous les artistes ayant fait quelque chose, c'est trouvé devant un public très, très divers, avec des gens qui avaient l'attitude de Madeleine Carole devant les meurtres, en disant « Ah, les beaux meurtres !» C'est-à-dire l'attitude esthétique, humoristique, distante. Et en même temps, des gens très bouleversés, très touchés personnellement par l'horreur, et qui, lui-même, éprouve le besoin là, peut-être... de prendre un temps de respiration et de réflexion sur ça. C'est pour ça que les thèmes dont vous parliez, Caroline, émergent soudain. Parce que ce qui l'intéresse, c'est précisément le spectateur par rapport à la fiction qui a déjà été mise en jeu et qui sera mise en jeu dans toute son œuvre, à savoir le fait qu'un être humain éprouve le besoin d'en tuer un autre. Une chose qui ne va pas de soi. Bon, alors, sortons de cette première séquence, et si vous voulez, moi j'ai envie d'aller à Peterlor.
Mais là, il faut parler de l'escalier et de cette incroyable rencontre de l'agent principal avec ce qui va s'appeler le général. Oui, le
Attends,
tueur.
L'agent principal qui est joué par John Gilgud.
Oui,
pour Providence, le chef d'orchestre, et ce film-là qui nous rejette brusquement en
36. C'est très émouvant de revoir John Gilgud aujourd'hui jeune.
Oui, absolument. Alors,
et cette rencontre se fait dans un escalier. Il est avec R, le responsable des agents secrets, Gilgud, et puis on voit arriver un zouave insensé qui court après une soubrette, et c'est Peter Lorre déguisé en mexicain, puisque le scénario d'Hitchcock, c'est deux nouvelles de Somerset Maugham, c'est ça. L'une s'appelait En mexicain chauve et l'autre Ashenden, et le mexicain chauve, c'est... le personnage de Peter Lorre, absolument étonnant, mais comme peu de personnages chez Hitchcock. Hein, là, on a l'impression qu'il surgit comme un diable d'une boîte dans ce film.
Alors, il tient de Groucho Marx et de Harpo Marx poursuivant les soubrettes, effectivement, disant « j'ai pas le temps, on verra ça plus tard ». Et c'est lui qui finalement... Alors, il y a ce fameux lapsus dans l'entretien entre Hitchcock et Truffaut. Et Truffaut dit à Hitchcock « le héros, à la fin, meurt ». Se fiant à un mauvais souvenir... Et Hitchcock ne le dément pas. Parce que le héros, c'est...
Gilgud.
C'est Ashenden, c'est Gilgud. Or, moi, il me semble bien que, en l'occurrence, le héros, compte tenu de ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est quand même l'exécuteur des hautes œuvres. C'est-à-dire que c'est Peter Lorre qui, dans le film, est chargé de s'approcher au plus près de j'allais dire de Pierre Donadieu si j'avais envie de l'étrangler.
Oui, bon. Mais comme tout le film est resté à distance, oui, c'est pas si évident que ça. C'est
mais il y a les deux, mais les deux distances. Il y a celle de Peter Lorre qui est le plus près et celle de Ashenden qui est le plus loin.
La différence, c'est que Peter Lorre, c'est un sauvage, il a envie de le tuer, il est présenté comme ça.
Absolument.
Bon, et dans cet escalier, qui est quand même un escalier, c'est un espace déterminé, déterminant, lui monte et l'autre descend. Et il monte effectivement vers quelque chose qui est de l'ordre de l'excitation. C'est un personnage excité, le personnage de Peter Lorre, du Mexicain. Alors que l'autre est un personnage extrêmement anglais, extrêmement tempéré, et pour qui effectivement le meurtre va petit à petit devenir une sale besogne.
Bon, il faut quand même dire que Peter Lorre est délirant de génie. Là. C'est vraiment quelqu'un. Alors, on sent l'humour d'Hitchcock, qui est un humour très 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 profond. Souvenez-vous, Caroline, de l'hommage de l'American Film Institute que vous avez vu sur FR3, où son discours était empreint de l'humour le plus profond qu'on puisse imaginer. Alors là, on imagine très très bien ce petit personnage Hitchcock devant Peter Lorre et finalement bouillant de rire intérieur, à l'animer et à le diriger. C'est tout à fait extraordinaire. Quand Peter Lorre pleure de rage, là vraiment, Hitchcock s'est fait plaisir. Parce qu'on a donné, le scénario veut que Gilgul soit marié à Madeleine Carroll. Et que l'autre espion, donc le tueur, Peter Lorre, n'est personne, il soit célibataire.
Oui, mais alors là je veux juste avancer un petit peu plus lentement, c'est qu'on arrive à deux agents secrets, et comme on sait qu'Hitchcock aime tellement les situations à trois, moi j'étais presque certaine qu'ils en retrouveraient un autre. Je ne le savais pas, je ne connaissais pas le scénario. Et quand il arrive à l'hôtel et qu'on lui dit « Madame est là », il y a cette espèce de soulagement du spectateur hitchcockien qui se dit « Voilà, ils sont trois ». Et la situation va toujours se baser sur trois agents secrets, et après, deux hommes, une femme, puisqu'on va voir que la victime, enfin la vraie victime, va entrer dans un jeu de triangle avec la femme et Ashenden.
Ah, il y a plusieurs triangles dans le film, il y a
effectivement,
pas qu'un.
Cette séquence dont vous parlez, et où Peter Lorre crie de rage parce que
parce
qu'il n'a pas de femme, elle est étonnante parce qu'elle est filmée. J'ai l'impression qu'Hitchcock l'a filmée plus qu'il s'est fait plaisir. Je crois que c'était comme une répétition, qu'il tournait, et à un moment, il y a un sourire de Gilgul sur l'acteur Peter Lorre et pas sur le personnage, qui est absolument prodigieux. Je suis presque certaine, si Hitchcock était là, on lui demanderait, que c'est une répétition qu'ils ont tournée. Et on voit Gilgud regarder l'autre, mais avec un air d'un acteur qui regarde un autre acteur, très très amusé et très très admiratif, comme Hitchcock devait le regarder.
Oui, alors là, moi j'irais plus loin encore dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est une répétition, mais je suis sûr d'une chose. C'est que, en l'occurrence, Peter Lorre, dans le film, c'est la réaction d'un agent secret à qui on n'a pas attribué de femme dans sa panoplie d'agents secrets. Mais en réalité, il s'agit d'un acteur lisant un texte d'une pièce et disant « Mais alors quoi ? J'ai pas de partenaire féminine ? Je vais m'ennuyer !» En fait, c'est absolument ça. C'est-à-dire que vous m'avez écrit la mauvaise pièce. Vous auriez pu... Alors, pourquoi j'ai pas le rôle de l'autre, qui lui a une femme absolument charmante, il va s'amuser, il va avoir des scènes sublimes avec elle, et moi j'ai rien, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être tout seul, etc. Et bon, c'est assez formidable, parce qu'en plus, cette solitude du meurtrier, je peux pas penser à d'autres meurtriers chez Hitchcock, et à leur totale, invraisemblable solitude. La solitude du type des fenêtres sur cour derrière sa fenêtre, etc., qui d'ailleurs a tué sa femme, ou la solitude du crime était presque parfait, de Rémy Land, qui est une solitude... il se trouve vraiment... Parce que le meurtre, c'est une fiction absolument incroyable, parce que c'est la seule chose qu'on puisse pas raconter. Dire que tout ce qu'on vous arrive d'important dans la vie, on peut le raconter. Dire quand on est très malade, ou quand on tombe amoureux, ou quand quelqu'un vous a quitté, ou quand vous avez envie de quitter quelqu'un. Mais il y a une chose que vous pouvez pas raconter, même à un ami intime, c'est que vous avez étranglé quelqu'un. C'est-à-dire que c'est ça qui rend, du point de vue de la fiction, le meurtre tellement intéressant pour Hitchcock. C'est parce que ça jette un personnage dans une solitude telle qu'il ne puisse pas raconter son histoire. Mais
ça, c'est le secret.
C'est ça, voilà.
C'est le troisième thème. C'est le troisième thème.
Je vais peut-être un peu trop vite, Caroline.
Non, vous n'allez pas vite, mais c'est plus général parce que le film est quand même, comme disait Pierre tout à l'heure, il y a de la matière dans ce film, une matière vraiment hitchcockienne. Par exemple, le cliché. Quand on arrive en Suisse et qu'on voit cette petite église au fond des vallons et qu'on entend des cloches de vaches et tout ça, bon, c'est très très drôle. Et là, tous les gens rient dans la salle. Alors, est-ce qu'ils comprennent à quel point Hitchcock aime travailler le cliché ? Et d'ailleurs, il le dit dans l'entretien avec Truffaut sur ce film-là. Il dit que c'est très très important pour lui que ce soit la Suisse, parce que qu'est-ce qu'a la Suisse ? Pas grand-chose, des pâturages, des vaches, du chocolat. Et puis de l'argent.
Des montagnes.
Et des montagnes. Et qu'il faut faire avec ça. Parce que c'est sale. C'est, un film, c'est ça. C'est faire avec. Et donc, bon, le chocolat, on verra le rôle qu'il joue. Mais ce cliché géographique, qui est un cliché qui importe à Hitchcock, me fait penser au travail d'Hitchcock sur les transparences. Un travail qui sera très, très abouti dans Marnie. Et qui existe déjà dans ce film-là. Parce qu'il y a deux ou trois transparences quand ils prennent le téléphérique ou quand ils sont dans une voiture, je ne sais plus exactement. Où on sait que c'est des transparences, où le spectateur, quand même un peu averti, voit que c'est des transparences, et où Hitchcock ne s'en cache pas, avec cette idée que le cinéma doit être ironique, ironique par rapport à sa propre technique, et que pas simplement ironique par rapport à des personnages, des êtres humains, etc., mais vraiment un regard ironique sur lui-même.
Il adore jouer avec des maquettes, il adore jouer avec... Il y a un côté complètement enfantin, là. C'est cet homme complètement hyper intelligent. Si Marnie va tellement loin dans la rue, qui vraiment sent le décor à plein nez, c'est parce qu'il s'agit de la rue de l'enfance, c'est parce qu'il s'agit de celle-là, enfin, et encore plus nettement que dans les autres films.
Vous voulez parler du dernier plan de Marnie ?
Ah oui, bien sûr, il s'agit de la rue de son enfance et de là où elle a joué. Cette rue, on a joué quand on est môme dans un quartier populaire,
c'est inoubliable.
Or, ça n'est représentable que de cette façon, probablement. Mmh. Enfin, honnêtement, à ce moment-là. Mais
la transparence dans ce film-là, là, celui agent secret dont on parle, elle y est au sens figuré, dans ce qu'on appelle techniquement une transparence, bon, qui est un truc important chez Hitchcock, hein, je crois, et elle y est au sens propre parce que le film, il est transparent, parce que les personnages le sont, la femme, bon, j'explique que les femmes chez Hitchcock, elles sont transparentes, elles sont vides, c'est ce qu'il aime. Elles sont blondes généralement, elles ont un regard d'aveugle, celle-ci, elle a un regard d'aveugle dans une séquence absolument incroyable qui est la scène du meurtre. Où justement il s'agit du regard. Et puis, c'est transparent parce que, comme je disais, les personnages, ils sont maladroits. Ces agents secrets, ils sont de très mauvais agents secrets. Et quand ils vont arriver dans cette petite église suisse, parce que c'est là qu'ils vont avoir le relais pour savoir qui est l'homme qu'ils doivent assassiner, il y a un bruit d'orgue insensé qui est le bruit d'un orgue bloqué.
C'est une idée formidable, de toute façon. Cette idée de quelqu'un qui est mort sur un clavier, c'est une idée absolument... Enfin bon, il y a des quantités de gens qui auraient été malades, qui sont malades de ne pas l'avoir eu. Enfin.
En tout cas, c'est une compréhension qu'on a, vous êtes d'accord, absolument. Claude, avant les agents
secrets.
De toute
façon,
oui. Bon, merci, ouais. Pierre. Qui sont là à planter leur cierge, et puis qui comprennent toujours pas, et puis qui regardent, et qui comprennent toujours pas, et qui, à un moment donné, se dirigent, et alors là, extrême contentement du spectateur, moi, de voir qu'effectivement, l'homme est mort. Et puis, qui tient un petit bouton, qui va être, le fil conducteur du film, un petit bouton de par-dessus,
hein,
dans sa main. Et donc là, il s'agit effectivement d'une situation transparente. Et je crois que c'est pour ça que chez Hitchcock, il y a tellement de mal à s'identifier aux personnages et tellement de facilité à s'identifier aux situations. C'est parce qu'il joue sur j'arrive pas très bien à exprimer où elle se situe, mais sur une transparence qui fait que, bon, les personnages, on est obligé de les prendre les uns après les autres. Enfin, on est obligé de s'identifier à une situation et de pas s'arrêter à un personnage qui bloque.
C'est-à-dire que ça justifierait le fait qu'il se préoccupe assez peu
d'un seul personnage. C'est toujours un personnage avec un autre. C'est toujours une imbrication de...
Oui, c'est ça. Et ce qui explique que la complexité vient non pas du personnage, qui lui est très simple, mais de leur relation.
Enfin, c'est très simple, les personnages.
C'est ça, voilà. Très simple. Ils ont toujours été très simples.
C'est des caricatures, même, ces trois personnages-là.
Oui, c'est jamais...
Cet agent secret anglais, ce Mexicain chauve et cette femme, ils sont d'une transparence absolue.
Oui, et je dirais même, alors là, parce qu'il y a une chose qui m'a frappé en le voyant, et par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur les écrans, dans tous les films, c'est voir à quel point les complets du tronc sont fripés dans Sauf qu'il peut la vie. Et à quel point John Gielgud est tiré à quatre épingles. Mais c'est important. Je veux dire que ce côté tiré à quatre épingles de tous ces personnages, y compris d'ailleurs de celui qui devrait être fripé, qui devrait être lamentable, qui devrait être... à quel point même Peter Lorre donne l'impression d'être très bien dessiné. Parce qu'on a l'impression qu'il déteste le désordre, Hitchcock. On a l'impression que vraiment, il ne pourrait pas filmer un personnage mal rasé. Si ça n'est pas... Et même s'il devait être mal rasé, ce serait par rapport à un scénario où il serait admirablement mal rasé, où il aurait calculé la longueur des poils de telle sorte que... Bon, alors, réponse à la question que s'est posée Chabrol, finalement, dans Cinématographe, dans le numéro spécial de Cinématographe, où il dit que, finalement, Hitchcock a tourné un nombre incalculable d'histoires idiotes. Et que, par-dessus le marché, ça ne lui était pas imposé par les producteurs, c'est parce qu'il aimait ça. Enfin... Entendons par histoire idiote, histoire où les personnages sont pas intéressants psychologiquement, pas riches, pas profonds, pas complexes, pas... c'est pas de ce côté-là qu'ils sont intéressants.
Sans doute l'exemple le plus frappant de la vacuité des personnages d'Hitchcock est le personnage de Cary Grant dans La mort aux trousses, où il s'identifie à un personnage d'espion qui n'existe pas. Progressivement au cours de l'intrigue, les personnages, enfin les méchants... fabrique un espion à partir de sa brosse à cheveux, sa brosse à chaussures, des rendez-vous dans divers hôtels, alors que ce personnage est un pur fantoche, que c'est un vide.
C'est très précisément ce que tu disais, Claude, au début de cette émission, quand tu parlais de diverses attitudes par rapport au meurtre. C'est comment, effectivement, on peut désirer d'avoir le meurtre et puis ne plus en avoir envie. C'est toujours exactement ça. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que comment les deux méchants du film sont représentés, puisque le tueur, c'est tout de même, il n'est pas si sympathique que ça. Il est entre les deux. Et le vrai méchant qui est l'espion, lui, est extraordinairement sympathique. Enfin, extraordinairement peut-être pas, mais il se veut très séduisant.
Mais ils sont tous les deux. Ce que tu dis, Pierre, est très, très passionnant. C'est qu'ils sont tous les deux, ils ont tout leur... C'est pour ça que le sujet du film, c'est probablement la maladresse et le hasard et toute chose dont on va parler maintenant, mais c'est certainement la séduction. C'est-à-dire que la séduction de ces deux personnages qui sont l'un et l'autre des meurtriers. Alors, professionnels et en même temps, effectivement, c'est vrai... Il faut qu'il soit maladroit compte tenu de l'histoire traversée, puisqu'on va laisser aux gens la surprise du dernier plan final qui est presque surprenant, je veux dire qui est comme un coup de dé. Et c'est là que j'aimerais assez vous entendre parler du hasard, parce qu'il y a cette séquence de la roulette où...
C'est le casino, oui, ils se retrouvent au casino. Étrangement, c'est... Bon, alors ça, c'est encore le rapport de Hitchcock à la femme, comme ça, comme étant un monument d'intuition. La femme, elle va se retrouver avec, comme chevalier servant, l'homme à abattre. Et puis d'ailleurs, les deux autres vont croire qu'elle avait tout compris, alors qu'elle n'a absolument rien compris, puisqu'elle est encore plus spectateur que le spectateur. Hein. Elle est fondamentalement spectateur, cette femme, dans le film. Et puis alors, l'homme, le Mexicain chauve et Ashenden vont la rejoindre au casino, et avec ce bouton qu'ils ont donc arraché au cadavre de l'organiste. Et puis là, au-dessus de la table, il va y avoir une petite bousculade, et le bouton va tomber sur le tapis, sur le numéro 7 qui va d'ailleurs sortir. Et ça, c'est vraiment la façon dont Hitchcock aime jouer. Là, c'est vraiment l'ironie, parce qu'il n'avait pas besoin d'en rajouter, mais il a quand même éprouvé le besoin de faire sortir le numéro 7. Et donc, à ce moment-là, ils vont jouer du fait que ce bouton étant sur la table, on va demander à qui il est, quelqu'un va se déclarer, et ce quelqu'un sera le coupable. Alors, évidemment, non.
Quelqu'un va se déclarer, pas exactement. On demande à qui est ce bouton, et c'est l'homme à abattre, précisément, qui dit « Est-ce qu'il ne serait pas à vous, en désignant un homme ?» Alors, est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est un hasard complètement mis en scène, justement, par le méchant ? Là, la question est complètement ouverte.
Alors là, vous êtes en train de déflorer l'action, mais enfin, vous avez prononcé un mot un très, très important, parce que qui dit hasard dit ironie. Enfin, c'est rien n'est plus attirant quand on est joueur, bien entendu. C'est une des passions les plus fortes du monde, une des passions les plus... Je crois que le jeu est une des choses qui vous requiert absolument.
À ce moment-là, le regard...
Et pourtant, et peut-être parce que à ce moment-là, on affronte une séduction supérieure qui est celle de l'ironie, enfin, l'ironie du sort, l'ironie du hasard, l'ironie de...
Et à ce moment-là, on a l'impression très étonnante que tous les acteurs, bon, puisque tu mets le méchant hein, dans les acteurs de ce... C'est une comédie policière, en fait. J'arriverai pas à dire que c'est un film policier, moi. Oui. Parce qu'il y a des moments très, très...
C'est vraiment une comédie.
Comédie policière tragique, cela dit. Parce que, par exemple, c'est
une séquence qu'on a passée, mais ces énormes gros plans sur les oreilles qu'ils font dans l'église quand ils se cachent en haut de l'église. après que l'homme ait été assassiné. Oui. Bon, les gros plans sur les yeux, d'accord, c'est des organes nobles, mais c'est ces gros plans énormes sur ses oreilles, c'est très très drôle. Et c'est très... Là, c'est, vraiment, on a l'impression qu'il s'amuse de lui, là. Vraiment, de ce oui. qu'il peut faire avec le cinéma.
Je trouve que c'est plus que drôle. C'est tout le film est fait beaucoup en gros plan comme ça. Et le gros plan a une grande importance dans le film.
Non, c'est le plus gros plan. J'ai jamais vu d'aussi gros plan d'oreille, jamais.
Non, mais n'empêche que tout le film est fait plutôt en plan relativement serré qu'en plan large. Et c'est ça... C'est les plans les plus serrés du film.
Enfin, de fait, plan, il fait en plan serré, il est près des personnages.
C'est ce que je dis. Ces gros plans-là, ce sont ceux qui font le plus percevoir la matière sonore qui est autour d'eux. Les gros plans, ils ont une justification précise, c'est qu'on est dans un clocher où les cloches sonnent. Et pour pouvoir parler, il faut que la bouche soit contre l'oreille. Et là, véritablement, on est environné par l'impossibilité de parler. Et il y a une façon de faire passer comme ça le son dans l'image qui est tout à fait saisissante.
Non, attention, n'oublions pas aussi une chose, c'est que Hitchcock est un... C'est même une des choses qui le caractérise.
Mais comme justement le son ne peut pas passer dans l'image, parce que l'une image, c'est pas du son, et du son, c'est pas une image, je trouve que c'est tellement des mots de dire ça... Que moi, ce que je crois, c'est que Hitchcock s'amuse vraiment avec cette matière-là, parce qu'il se dit effectivement, je ne peux pas faire passer du son dans l'image. Alors, il y a cette espèce de gigantesque sourire qui n'est pas un gros plan sur une bouche.
Oui, et puis surtout, cette période-là, hein, on est en 36. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, dans le cinéma international à cette époque-là. On est encore au temps où on ne peut pas dire que tout a été inventé. Et Hitchcock est un de ceux qui s'amuse d'inventer aussi bien en écrivant son scénario avec sa femme Alma Reville, je suppose, et ses amis et les gens qu'il met dans le secret de sa fabrication. Je suis sûr qu'il doit rire intérieurement très fort à ça. On va le faire, ça on va le faire, parce que ça n'a pas été fait. Il y a un côté comme ça et puis alors, une des choses les plus étranges qui d'ailleurs se transpose absolument sur l'autre terrain, qui est le terrain, disons, de l'attitude vis-à-vis du meurtre. C'est-à-dire que l'œuvre entière d'Hitchcock serait absolument insupportable, compte tenu de sa sauvagerie meurtrière. C'est-à-dire que ça n'est... C'est-à-dire qu'il y a l'envie de risquer, de passer les bornes.
L'expérimentation.
Oui, mais de faire des choses énormes. Et d'ailleurs, des choses énormes, il en fera toute sa vie.
Il en
fera toute sa vie. Les oiseaux, c'est rempli de choses aberrantes chez un autre metteur en scène et qui chez lui deviennent amusantes, drôles, inventives. C'est-à-dire qu'il y a le goût du risque. Il a toujours eu. Je crois que l'invention est liée au goût du risque. Et chez lui, alors, plus que chez quiconque. Elle était complètement exemplaire.
En même temps, je me demande si sur ces gros plans, sur d'autres moments du film, c'est pas aussi une référence au cinéma muet. Parce que le gros plan comme ça, c'est quelque chose qui a existé dans le cinéma muet et qui n'existe plus à partir de 1930, à partir du parlant. C'est quelque chose qu'on oublie complètement. Est-ce que c'est pas une façon d'Hitchcock de dire il y a eu un cinéma avant le cinéma parlant qui était un autre cinéma, un cinéma de l'image, justement?
Oui, mais c'est ce qui fait faire à l'autre grand, à l'angle.
C'est tellement contradictoire avec ce que vous expliquez, qui est... La seule chose importante, c'est l'effet d'une image sur le spectateur. Et ben, je suis désolée, l'effet de cette image, c'est que les gens rient. Moi, j'étais dans une salle où les gens, ils ont ri. Donc, c'est de ce rire qu'il faut partir pour analyser cette image, et pas de la volonté que tu as de vouloir parler. C'est évident qu'on peut penser au cinéma muet, c'est d'une telle évidence, mais c'est une évidence de cinéphile. Et c'est pas du tout l'évidence avec laquelle Hitchcock traite le cinéma, parce que c'est l'évidence du spectateur.
Mais d'autant que je peux te répondre, effectivement, il y a du vrai dans ce que tu dis, Pierre, mais si tu prends le plan de Fury, que Lang n'a jamais coupé à sa grande honte, qui est le plan, tu sais, des femmes qui cancanent, et il rajoute un plan de poule. Alors là, vraiment, c'est la vieille habitude du cinéma muet qui lui est revenue soudain. Et dans Fury, ça arrive comme vraiment. Alors là, parce que là, il n'y a aucun amusement dans Fury. Le Lang, il n'a pas d'humour. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui fait probablement, bon, à jamais, quand même, que Hitchcock ait quelque chose, peut-être, de différent, mais peut-être en plus, je ne sais pas. C'est-à-dire que. Alors que le plan de poule de Fury est un plan qui nous paraît aujourd'hui grotesque, c'est-à-dire trop près du muet et pas assez, trop ou pas assez, alors que les plans dont parle Caroline ont conservé leur efficacité concrète. Et ça se traduit soit par des rires, soit par un effet. C'est-à-dire soit par des rires, soit par de l'horreur, qui s'est toujours très près chez lui. Et c'est ça qui risque. C'est ce moment où l'horreur où on peut brusquement éclater de rire dans les oiseaux. C'est-à-dire qu'on monte à un grenier, on ouvre une porte et on se trouve devant une volaille absolument monstrueuse. Bon, Pourquoi ? C'est-à-dire, l'horreur et le rire est toujours très très. C'est ça. C'est, alors, dans ce film-là, plus que dans aucun autre, hein, Caroline, on est bien d'accord, je crois. Le rire et l'horreur, enfin.
Voilà, oui, après ce plan d'oreille, on peut parler à l'aveuglement. Je ne sais pas si tu veux parler de la séquence.
J'aimerais ajouter quelque chose à propos des plans d'oreille. Moi, il m'a fait irrésistiblement penser à la scène de la confession dans L'homme qui en savait trop, la deuxième version de L'homme qui en savait trop avec James Stewart, où on a exactement le même plan, qui est cet homme en train de mourir, qui confesse, qui avoue à James Stewart qu'il y a un meurtre qui doit être commis et que James Stewart doit agir très rapidement, sinon un homme sera assassiné. Et tout l'aspect ironique que je ne désavoue pas qu'il y a dans ce gros plan d'oreille et de bouche de l'agent secret est brusquement chargé dans L'homme qui en savait trop d'un thème essentiel à Hitchcock et qui est celui de l'avertissement, du danger, de l'aveu, de quelque chose qui ne peut pas se transmettre.
Oui, alors là, il s'agit,
et qui brusquement devient,
église, hein,
devient...
Il s'agira plutôt de la confession. Alors.
Voilà, absolument.
Ah oui, parce mais que, ça, ce qui nous renvoie à Il confesse.
Ce qui nous renvoie surtout au fait, si on ne veut pas trop faire de référence, au fait dans le film qu'ils font une erreur.
Absolument.
Donc ça annoncerait, alors là, plus simplement par rapport à ce film précis, ça annoncerait le fait qu'ils vont faire une erreur. Quoi.
L'idée du malentendu.
Oui, c'est ça.
Et du péché.
Oui, mais en étant bien d'accord tout de même, moi je pense, je ne peux pas ne pas penser ici à l'idée qu'a avancé Jean Gruau l'autre jour, à savoir qu'à un certain niveau d'invention, de gag, ce qui résout d'avance la question, n'était-il conscient, n'était-il pas conscient ?
Oui,
on s'en fiche. Il invente si fort que tout fait sens.
Moi, ce qui m'a frappé dans la scène du meurtre, où les trois personnages montent...
Ils sont trois des deux côtés. Hein.
Oui.
Il faut d'abord signaler ça. Ils sont trois dans une chambre, puisqu'il y a la vieille, qui est la dame du type qu'on assassine. Il y a la femme... soi-disant de Hachenden, et puis son chevalier servant, qui est celui qu'on devrait assassiner, d'accord ? C'est déjà le paradoxe étonnant, qui sont tous dans une chambre, et puis trois de l'autre côté, qui sont, bon, les deux agents secrets, tellement mauvais, forcément défloré.
Oui, oui, d'accord.
On a déjà dit tout le film, Claude. Les deux agents secrets et leurs victimes.
Bon, donc, alors, ils sont trois des deux côtés, oui. Et alors, il y a cette idée magnifique de précisément de la distance à la jumelle, puisque ouais. C'est l'objectif. Et...
Progressivement, les trois espaces sont définis. Le premier espace où Peter Lorre monte avec sa future victime. Un deuxième espace où le personnage de Dungy Guld se réfugie dans une tour où là... au bout d'un télescope...
Dans un observatoire.
Pardon. Et là, au bout d'un télescope, il observe le meurtre en train de se faire.
Comme
et
enfin, James Seward dans Rear Window.
Exactement. Voilà. Et enfin, le troisième lieu...
Mais le spectateur ne verra pas le meurtre. Hein.
De même que dans Fenêtre sur cour.
Le meurtre, il se fait en cinq plans. Parce qu'ils sont continus, qui sont entrecoupés de rien. Avancé dans l'observatoire, plan large sur les deux alpinistes qui montent, plan resserré, travelling très léger sur la longue vue, gros plan de la main du Mexicain chauve s'appuyant sur l'épaule du faux anglais, du soi-disant faux anglais, et puis gros plan assez étrange de Hachenden se voilant les yeux. Alors là, j'ai pas non plus. J'aimerais avoir des explications sur ce fait qu'il, bon, il ne veut pas voir ce qui s'est passé. Il se rend compte qu'il s'est trompé. Il y a quelque chose d'évident là, d'intuitif. Mais il y a quelque chose qui a à voir avec l'aveuglement. Il fait comme s'il se fermait les yeux.
Bon, il y a un aveugle sublime dans une œuvre d'Hitchcock que vous connaissez peut-être pas, qui est l'histoire d'un fuyard à travers les États-Unis. Je crois que ça doit être Cinquième colonne. Non oui. Et il arrive chez un aveugle qui voit tout en réalité, hein. Enfin qui est un saint, qui d'ailleurs...
Voilà, c'est un qui voit rien en fait.
Oui, voyant. Alors là bon, il y a quelque chose qui est très important, enfin, et qui fait... auquel on ne peut pas échapper, on s'est foutu de nous pendant 15 ans là-dessus, je veux qu'on disait qu'il était catholique, chrétien, Hitchcock et le mal, les articles de Chabrol, etc., etc. Mais ça, on ne peut pas échapper à l'intime conviction d'Hitchcock lui-même qui sait parfaitement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui sait parfaitement à quel point nous sommes liés les uns aux autres, et, dans le bien comme dans le mal. Il est certain que les personnages d'Hitchcock sont liés les uns aux autres dans le mal, dans la guerre, dans le meurtre, dans ce qui les oppose dans ce film, exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement il n'a jamais eu de véritable difficulté à être à la fois le croyant qu'il était et un metteur en scène de cinéma hollywoodien, c'est parce que les gens dans une salle de cinéma sont exactement liés les uns aux autres par la convergence de leurs regards sur le même écran, et que c'est de ça qu'il s'agit. Et que donc, à partir du moment où il conduit le regard du spectateur en mettant en scène, comme il met en scène, cette scène de meurtre en la décomposant, enfin, au lieu de rester avec Peter Lorre et sa victime, finalement, ce qui n'est pas intéressant, et il vaut mieux jouer sur ce qui se passe dans notre tête.
Oui, on n'a pas dit que dans cette chambre, on sent très bien une atmosphère de meurtre. On n'a pas dit ça, qu'à l'hôtel...
Et par chien, pure télépathie
reste, le chien est resté, et que ce chien hurle à la mort, comme on dit qu'un chien hurle à la mort, parce qu'il sent que son maître... Bon, on comprend ce qu'il sent. Et à ce moment-là, la femme qui sait, elle, qu'ils ont été faire ce boulot, affiche un regard d'aveugle, absolument. Elle a une espèce de regard comme ça, complètement perdu.
D'un regard intérieur aussi. Il me semble qu'il y a trois espaces dans le film, mais il y a aussi trois degrés de conscience. Le personnage de l'assassin qui est Peter Lorre, qui est manifestement le plus cynique, qui n'a pas peur de tuer. Il y a le personnage de John DeGuigul, qui est à cheval, qui se pose encore des problèmes, qui sait qu'il faut tuer, mais qui ne sait pas encore s'il faut vraiment le faire, et qui refuse au dernier moment de suivre Peter Lorre.
Qui a le problème du devoir, lui.
C'est ça, il sait qu'il n'aime pas ça, mais il le fait s'il faut absolument le faire.
C'est le devoir. Et puis elle, qui est l'amour, c'est ça que tu veux dire.
Non, et elle, qui fait ça par plaisir, et qui a une espèce de degré aussi inconscient, encore plus
inconscient. Sauf qu'après elle, c'est elle qui se retourne le plus
vite. Oui, elle est complètement inconsciente, justement, de son désir.
Moi, je dirais pas qu'il y a trois degrés, parce que ce serait trop simple. Qui est 3 degrés oui. de conscience. Enfin, c'est oui, très important que vous parliez de degrés de conscience, parce que les personnages passent les uns et les autres par des degrés différents de conscience. C'est ce qui d'ailleurs les rend passionnants et intéressants. Et nous, parce que, bon, Gilgulde, au milieu, héros du film, et c'est là qu'il est vraiment le héros du film, il est le héros du film parce qu'il est finalement le spectateur moyen.
Oui,
c'est-à-dire celui qui, comme tout le monde, a été à la guerre, puisqu'il faut la faire tout en la détestant et en accomplissant des actes guerriers, des actes héroïques, s'il le faut, tranquillement, mais en étant complètement dégoûté, si brusquement les choses apparaissent trop près, s'il faut tuer, étrangler de ses mains un Allemand dans la tranchée d'en face, etc. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui est prodigieux chez Hitchcock, c'est la façon dont il est juste. C'est-à-dire qu'il est juste par rapport... pas moralement, c'est pas
comme dit Godard,
même pas psychologiquement.
Pas qu'il est juste, mais comment il dit ça, Godard ?
C'est juste une image.
Oui, c'est juste.
Oui, il est juste là où il faut. Il est juste.
Il est juste sur le désir finalement.
C'est ça qui le rend tellement exemplaire, c'est que il y a aucune ombre de thèse, de discussion abstraite, théorique. Il y a simplement une sorte de potentiomètre intuitif avec des degrés de conscience plus ou moins clairs. C'est pour ça que finalement, je suis sûr que tout à l'heure, c'est ça qui est assez beau dans notre conversation, c'est qu'elle a parlé d'ombre et de lumière. Bon, et que finalement, on termine cette émission sans s'être concerté en parlant de conscience claire et d'obscurité, et de conscience obscure, disons, si ça peut se dire. Or, c'est très exactement le... Hitchcock, il a un potentiomètre complètement intuitif et quasiment instinctif qui lui a été fourni par sa culture, etc. Et il en joue. Et il en joue admirablement au point d'arriver à... Bon, ce qu'il faudrait faire réellement, c'est essayer de voir à tout instant du film où nous en sommes. Mais ce que nous savons, nous, intuitivement, c'est que sa main ne tremble pas quand elle se place à ce degré-là ou à cet autre-là de la conscience et de la lumière.
Mais ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que pour les gens qui vont voir ce film, c'est un extraordinaire, une extraordinaire façon de comprendre ce que sont les thèmes hitchcockiens, ce qu'est le travail d'Hitchcock. Parce que j'ai l'impression que c'est une base, ce film. C'est comme un cadeau qu'il fait pour comprendre après des films quand même beaucoup, beaucoup plus compliqués au niveau technique, au niveau psychologique.
Je voudrais ajouter deux choses, Caroline. Je suis sûr que vous avez raison. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse uniquement de ce film, on aurait pu le dire aussi de l'innocent
l'année
dernière. Oui. Il s'agit donc de cette période de son œuvre, c'est-à-dire des années 30.
Les 35.
Et même on aurait pu remonter à The Lodger, qui est un film muet et sublime, ou à The Ring, par exemple. Mais ce film, aujourd'hui, en 1981, nous est complètement indispensable. Et vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas vu malheureusement en public. Et je pense que c'est à ce public-là, c'est-à-dire à cette conscience à la fois claire et obscure, qu'il faudrait l'envoyer, parce que je crois qu'il n'a jamais été aussi lisible et aussi, en même temps, désiré
Ce que je dirais plus violemment, c'est qu'il fait désirer les plus grands films d'Hitchcock, qui sont les plus grands films de l'histoire du cinéma, qui sont Vertigo, Fenêtre sur cour, et puis Marnie.
Et quelques autres.
Vous venez d'entendre un numéro du cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe consacré au film d'Hitchcock Secret Agent ou 4 de l'espionnage, diffusé la première fois le 25 janvier 1981 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.